De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue en 2019. L'année a commencé timidement, mais voilà que des films présents à Cannes arrivent sur les écrans et des films que vous avez plutôt appréciés, Manu Marine.
Oui, notamment Border, un excellent film suédois, et puis le film japonais Asako 1 et 2.
Border qui a quand même eu le grand prix justement de la sélection Un Certain Regard.
Et puis l'autre qui n'a rien eu, qui était en compétition officielle. Et toi, Marine?
Et moi, eh bien, également un film qu'on a vu dans la compétition Un Certain Regard, un film argentin qui s'appelle L'Ange, qui m'a beaucoup enthousiasmée. Et puis alors un film qui n'a rien à voir avec Cannes, une comédie française plutôt sympathique qui s'appelle Premières Vacances.
Et l'autre film français sera aussi une comédie, c'est Edmond de Alexis Michalik, qu'on aura le plaisir d'entendre puisqu'on a pu le rencontrer. Et puis, si on a le temps, on jouera à un top des films qui ont remporté les 5 premières places du box-office 2018. Ce sera vraiment pour en terminer avec l'année passée. C'est Cinérama qui débute.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, ça, une blague ou quoi?
Donc toi, les vacances, c'est Biarritz?
Ouais. Ouais, c'est Biarritz, ouais.
Et toi, tu vas où?
À Beyrouth.
Tu veux partir en vacances avec moi?
On commence donc avec Premières Vacances de Patrick Cassir. Lorsque Marion et Ben, deux trentenaires parisiens qui se rencontrent sur Tinder, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Alors attention déjà, si les termes trentenaires, parisiens et Tinder vous agacent, n'allez pas voir le film. Pour les autres, eh bien, vous découvrirez sans douleur une petite comédie agréable qui ne révolutionne rien, mais qui parle plutôt bien de son temps. Les deux protagonistes, aux vies bien différentes, se plaisent et décident de tenter malgré tout un pari un peu fou. Partir en vacances ensemble dans un pays qu'ils ne connaissent pas, la Bulgarie. Deux semaines de vacances ensemble, puis ils se sépareront comme si de rien n'était et reprendront le cours de leur vie. Or, nous allons vite comprendre que Ben est un adepte du confort et des sentiers balisés, tandis que Marion est nettement plus aventurière.
Et pourquoi la Bulgarie? Je pense que t'as oublié ce que c'était que les vacances en couple.
Tu avales que des choses bouillies.
Ou des yaourts. Ça, tu peux les yaourts.
Si j'étais à votre place, je mangerais à l'hôtel.
On préfère dormir chez l'habitant.
Non, non, fais pas ça.
Pardon? Chez quel habitant?
Les vacances, c'est la pire épreuve du couple. C'est marrant de commencer par là.
Patrick Cassir, pour son premier film, coécrit cette sympathique comédie romantique avec sa femme Camille Chamou, qui joue également le premier rôle, en s'inspirant, eh bien, selon la légende, de leurs premières vacances passées ensemble. Partant du principe que les opposés s'attirent et que cela est généralement un bon départ pour une comédie, Premières Vacances brode autour des disparités des personnages et du comique de situations qui en résultent. Et c'est plutôt réussi. Alors le film manque sans doute de scènes cultes pour qu'il reste dans les annales de la comédie française, mais il n'a pas pour autant à rougir de son rendu final. Le casting est excellent, les personnages sont comiques juste ce qu'il faut, sans pour autant tomber dans la caricature de la fille bohème et du mec psychorigide. Et on remercie d'ailleurs les scénaristes de ne pas avoir fait l'inverse. Jonathan Cohen confirme son tempo comique inégalable et Camille Chamou s'offre un rôle de trentenaire qui contourne intelligemment tous les stéréotypes. Bon point également, le tournage en Bulgarie qui leur a sans doute offert pas mal de subventions, mais qui évite les écueils du film Carte Postale, piège dans lequel tombent systématiquement les comédies françaises, qu'il s'agisse de Babysitting 2 ou de Largué, sorti l'année dernière. Même s'ils surfent gentiment sur les clichés attendus, à savoir l'alcoolisme notoire des Bulgares et la corruption par exemple, c'est davantage pour se moquer du point de vue des Français sur ce pays que pour faire de l'humour facile. Et le film dénonce même quelques réalités économiques du pays auxquelles on s'attend moins, comme le gentil serveur qui n'envisage pas de coucher avec une Française sans se faire payer. Et au-delà de son côté classique de comédie romantique basée sur un système, un rythme infaillible, pardon, et sur des dialogues qui fusent, Premières Vacances se distingue des rom-coms classiques grâce à son intéressant discours critique sur les vacances. Loin de se contenter de l'antagonisme entre les deux personnages, le film s'interroge sur nos modes de consommation, sur nos fausses envies d'ailleurs, et étrille gentiment les néo-voyageurs qui croient déjouer le capitalisme, mais finalement restent bien confortablement dans un système de voyage conventionnel. Et ça, c'est ce que pour ma part, j'ai trouvé vraiment le plus intéressant dans le film, justement, cette petite critique comme ça qui est en filigrane et qui est plutôt bien sentie.
Première Vacances, c'est un film en salle depuis le début de l'année. Et on va passer à un film, cette fois-ci, alors danois-suédois, présent à Cannes. Où est l'homme, où est le monstre? C'est une question récurrente posée dans le cinéma. Et on y répond avec Border.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Alors Border ou Grants, puisque c'est le titre suédois, donc frontière. Mais de quelle frontière s'agit-il? Alors celle physique entre un pays et un autre, celle qui nous sépare du monde animal, du bien et du mal, du réel et de l'imaginaire. Le film démarre d'ailleurs de façon, on va dire, un peu pragmatique. Cette frontière est déjà liée à l'emploi de Tina, douanière qui possède un odorat exceptionnel. Ce don à la lisière de la magie lui permet de flairer la culpabilité des individus s'adonnant à divers trafics. Alors cette qualité rare rapproche Tina, on va dire, d'un animal, ce que son physique repoussant accentue sans ambiguïté, car il faut bien le dire, elle est objectivement moche. Alors non pas difforme comme John Merrick dans Elephant Man, mais effrayante comme une mutante issue de manipulation génétique, croisement insensé entre l'humain et un animal sauvage. Alors en travaillant ainsi pour l'État, elle pourrait être perçue comme un modèle d'intégration, mais la réalité est bien plus complexe. Elle vit recluse au fond des bois avec une sorte de parasite qui profite d'elle et la trompe. Alors si elle ressent la normalité de cette condition, elle s'accroche, continue d'interpeller les délinquants sous toutes leurs formes, jusqu'au jour où elle croise Vor, son alter ego masculin, alors aussi lesquels, ils font presque jumeaux. Alors considéré d'abord comme suspect, Vor va troubler Tina, se comportant de la même manière. Il ne fait aucun doute que Vor cache un secret, Tina en a la trouble intuition, mais elle éprouve une étrange attirance envers lui. Alors difficile d'en dire plus sans éventer quand même le mystère qui enrobe ce fascinant Border. Second long métrage d'un jeune cinéaste d'origine iranienne, exilé en Suède à l'âge de 22 ans, cette fable étonnante avance masquée. Alors elle se présente dans un premier temps comme une sorte de plaidoyer pour la différence, doublée d'une réflexion sur la frontière ténue entre inclusion et exclusion, enfin désir d'intégration et marginalité. Un questionnement d'ailleurs qui doit beaucoup interpeller le cinéaste vu ses origines iraniennes. Alors en s'emparant du roman de John Ashvid Lindqvist, auteur déjà de Morse qui avait été adapté deux fois au ciné, Ali Abazi signe une œuvre placée sous le signe d'un réalisme magique à forte connotation romantique qui culmine dans une séquence dans les bois à la poésie bestiale. Les deux tourtereaux courent nus dans la forêt, s'enlacent, s'embrassent, se confondent avec la nature et l'on pressent que la vérité sommeille en cet environnement minéral. Alors une dimension, on va dire, animiste, voire même mythologique s'instaure lors de cette virée qui culmine lors d'une scène de sexe aberrante, à la fois charnelle et grotesque, repoussante et fascinante. Alors le discours humaniste déployé se délite un peu, ou plutôt révèle la face cachée des choses, la noirceur du monde et son ambivalence. Le film pose alors le problème à l'envers, considérant l'intégration, l'acceptation de vivre parmi les hommes, comme un renoncement de sa nature même. Alors Border se transforme en une parabole sur l'identité, sur la capacité à accepter sa difformité et sa bestialité, canalisée et verrouillée par la civilisation, notamment à travers le métier qu'exerce Tina. La force du film, elle est un peu altérée par un scénario qui est quand même alambiqué, qui greffe sur cette histoire d'amour sauvage, alors non dénué d'humour par ailleurs, parce que le film est quand même baigné, il y a un humour très noir qui est présent tout le temps. Alors il y a une intrigue policière sordide sur fond de violence conjugale et de pédophilie qui va converger via des coïncidences un peu grossières, alors dans une direction unique. La construction habile du scénario retombant à chaque fois sur ses pattes se révèle quand même artificielle et verrouille parfois ce beau film par des déterminismes dans son opposition un peu facile entre nature et culture, entre les déviances de la civilisation face à la véracité instinctive de l'animalité. Alors, ce petit bémol lié à cette construction, on va dire, d'un scénario un peu trop parfait, n'entache pas le pouvoir hypnotique que procure cette œuvre à la croisée des genres, entre fable sociale, thriller glauque et fantastique, proche de la fantasy, portée par une mise en scène très inspirée, oscillant entre naturalisme cafardeux et un lyrisme très physique. La caméra colle souvent au plus près des personnages, une immersion dans une intimité dérangeante et singulière. C'est véritablement la force de ce conte, on va dire, qui est très borderline, interprété magnifiquement par deux comédiens inconnus, notamment parce qu'ils sont affublés
transformés.
De prothèses. Ce n'est pas leur vrai visage, ce qui est quand même bonne chose pour eux.
Alors très rapidement, Marine, hein, puisqu'il en était énormément question quand vous étiez à Cannes, j'ai beaucoup entendu parler de Border.
Oui, voilà. Alors en fait, c'est assez compliqué de parler de ce film parce qu'il repose vraiment sur une espèce de révélation. Donc c'est très dommage d'en dire trop. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Manu. C'est en effet la scène de cul la plus dérangeante qu'on ait vue à Cannes, hein, quand même. C'est ça, on s'en rappellera.
C'est drôle, hein.
Oui, mais parce oui, que... et donc ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'une scène de sexe, donc c'est vraiment inattendu. Non, je le conseille vraiment, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, en fait. Et donc je pense que c'est ce qu'on attend précisément de la sélection à certains regards. Donc il mérite tout à fait son grand prix.
Hommage à Cyrano de Bergerac et la création rocambolesque de ce succès du théâtre français, c'est Edmond d'Alexis Michalik, et c'est l'interview de cette émission.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
C'est l'une des pièces les plus adaptées du théâtre français. Au fil du temps, Cyrano de Bergerac se joue et s'apprécie sous différentes formes, hein, des opéras, des ballets, de la bande dessinée, peut-être même des jeux vidéo. Et ce qui nous intéresse, le cinéma. On se souvient particulièrement du film de Jean-Paul Rapneau avec la prestation de Gérard Depardieu et la fameuse tirade sur le nez. Mais en 2019, ce n'est pas une adaptation de la pièce qu'Alexis Michalik nous convie, mais au moment de la création de cette pièce, écrite en 1897 par Edmond Rostand. Pour se simplifier la tâche, le réalisateur n'a eu qu'à adapter la pièce qu'il a lui-même écrite et qui a remporté 5 Molières en 2017. Cette pièce est un immense succès et est toujours jouée, hein, en 2019 dans toute la France. Mais Alexis Michalik le sait bien, le cinéma n'est pas du théâtre filmé. Aussi, le comédien-réalisateur ne se contente pas de nous laisser dans les intérieurs, mais nous promène dans un Paris rêvé et ténébreux, à tel point qu'il est recomposé numériquement, hein, puisque le tournage a eu lieu à Prague. Mais il garde alors du théâtre le rythme, un rythme évidemment soutenu, ce qui ne dérangera pas non plus le spectateur de cinéma, qui ne demande pas toujours à garder sa distance avec la fiction. D'ailleurs, dans ce Edmond, eh bien, beaucoup d'éléments respirent la fiction. La tâche que s'est fixée le réalisateur, transposer Cyrano de Bergerac dans Edmond, son créateur. Alors Edmond a une muse qu'on ne lui connaît pas dans la vraie biographie, qu'il doit, eh bien, tirer les bras de son ami. Sa femme est au four alors que, bon, dans la vie, elle était poétesse. Et la pièce est produite par deux proxénètes corses sortis d'on ne sait où. Alexis Michalik s'inspire de la vie d'Edmond Rostand, de l'écriture et du montage en toute hâte de la pièce du dramaturge à une époque, en fait, où le théâtre se modernise et où on n'en écrit plus en vers. Alors, ce qui sauve Edmond Rostand, c'est d'écrire une comédie. Avec son Edmond, Alexis Michalik conçoit alors davantage un hommage au théâtre qu'une biographie d'Edmond Rostand. La mise en scène est un peu trop virevoltante, avec des mouvements de caméra au perché, mais aussi des cadres précis, hein, quand nous sommes dans les intérieurs et notamment sur le plateau du théâtre pendant les répétitions de cette pièce qui, alors jusqu'au dernier moment, promet d'être, comme la formule consacrée le désigne, à de nombreuses reprises dans le film, un four. On écoute l'auteur et réalisateur d'Edmond, Alexis Michalik.
Qui êtes-vous ?
Edmond Rostand.
J'en ai entendu parler. Hein.
C'est un héros qui a éclipsé son créateur. Cyrano, tout le monde le connaît. Edmond, personne ne le connaît.
Alors, votre pièce, comédie, tragédie ? Vous avez 2 minutes.
Tragédie. Comédie.
Bien, le titre.
Hercule. Oh. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac.
Pourquoi Cyrano et pourquoi Edmond ? Parce que, ben déjà, moi, j'adore Cyrano comme tout le monde, hein, grosso modo. Et j'avais envie de faire un film sur le théâtre et j'avais envie de raconter l'histoire d'un auteur qui écrit une pièce. Et un jour, j'ai découvert dans un dossier pédagogique en relisant Cyrano que l'histoire de la première de Cyrano, qui avait été absolument extraordinaire, à laquelle personne ne croyait et qui, au final, a été un triomphe sans précédent. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, personne n'a jamais raconté cette histoire. Et j'ai découvert dans le même temps que Rostand, quand il a écrit Cyrano, avait 29 ans. Et ça m'a frappé d'imaginer que ce chef-d'œuvre classique soit écrit par quelqu'un d'aussi jeune, par un esprit si jeune. Je me suis dit, bon, bah, y a une histoire à raconter sur comment l'inspiration lui vient et comment... Et il faut dire que voilà, les films sur le théâtre, il n'y en a pas beaucoup.
Mon rôle ?
Cyrano.
Très bien. Qui est-ce ?
Un poète. Femme rhéteur, avec une laideur.
Laideur ?
Enfin, laideur, non, mais disons, une... un grand... nez.
Un grand nez ?
Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance.
Qu'est-ce que c'est, le texte ?
Un début de tirade, la pièce n'est pas écrite.
Pas écrite ?
Ce que je voulais faire, c'était transposer Cyrano dans Edmond. Et il y a plusieurs moyens de transposer Cyrano dans Edmond, mais l'un des moyens les principaux, c'était de ramener le triangle amoureux Cyrano de Bergerac, Christian, Roxane, de le ramener dans Edmond. Et donc faire un triangle amoureux entre Edmond et sa femme et une tierce personne, c'était un peu plus risqué que si j'amenais une nouvelle jeune fille qui serait sa nouvelle muse. Et donc j'ai donné un peu ce rôle un peu ingrat à Rosemonde, de la femme un peu qui s'occupe des enfants, alors qu'en fait elle était beaucoup plus active. Voilà, il y a plein de choses vraies, plein de choses fausses. Les frères Floury ont existé, mais j'avais aucune documentation sur eux, donc j'en ai fait des corses patrons de bordel. Dans la vie, c'était sûrement pas ça. Qui sait. Voilà, Honoré est une pure invention. C'était pour donner un exemple de Cyrano à Edmond, pour donner l'inspiration de Cyrano, pour qu'il découvre ce personnage héroïque. Voilà, j'ai pris autant de liberté avec Edmond que Edmond Rostand en a pris avec Cyrano de Bergerac.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez.
Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Putasse.
Et Olivier Gourmet, il arrivait par hasard. Il était là. Non, il est évidemment Olivier. C'est un acteur extraordinaire. Il fallait un acteur qui soit capable à la fois de jouer la comédie du personnage de Coquelin, qui est quand même déjà dans un grand rythme, dans une grosse énergie et très sympathique, et en même temps qui soit capable de jouer Cyrano à la fin sans que ce soit ridicule. Donc il fallait quand même quelqu'un qui est du poids, et Gourmet, il a fait 200 films, il est toujours parfait, donc c'était super de l'avoir, quoi. Et puis en plus, c'est un registre qu'il aborde pas souvent, il fait pas souvent de comédie, il fait pas souvent de rôle de gentil, en fait. Et en plus de ça, Cyrano, c'est un truc qu'il a toujours voulu jouer comme tous les acteurs, comme tous les grands acteurs. Et donc il était hyper content de faire Coquelin qui fait Cyrano et de faire ça. Je crois qu'il s'est vraiment beaucoup amusé sur le tournage.
Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre.
Comme à chaque fois.
Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie.
Comme à chaque fois.
Edmond, tu as rencontré quelqu'un ?
Oui, j'ai rencontré l'inspiration.
Voilà, c'était Alexis Michalik au micro de Cinérama. Notez que Edmond est interprété par Thomas Oliveres, celui qui jouait Spirou. Voilà. Et on a entendu, il y a Olivier Gourmet qui fait une bonne prestation, qui limite cabotinage, mais voilà. Et puis Mathilde Seigné, alors par ailleurs, qui est une actrice que je déteste, mais que je trouve très bonne dans le rôle.
Voilà. Qui fait plaisir à tout le monde,
voilà,
je crois.
Effectivement. Voilà, c'était Edmond. Et on passe maintenant à une espèce de criminel au visage des faibles. C'est l'ange.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors quand je suis sortie de la projo du film L'Ange, donc de Luis Ortega à Cannes, je me suis dit mais que ce film est fun et sexy. Et à Cannes, c'est vrai que ces deux adjectifs sont quand même rarement utilisés pour qualifier des films, surtout dans la sélection Un Certain Regard. Troisième film du réalisateur argentin, donc Luis Ortega, est adoubé par Pedro Almodovar lui-même puisqu'il produit également le film. L'Ange apportait en effet un vent de romanesque bienvenu dans une sélection Un Certain Regard relativement austère, comme souvent. Le film s'inspire d'une histoire vraie, celle du criminel Carlos Robledo Puch, que l'on surnomma l'Ange Noir dans les années 70 et qui assassina, pour le plaisir, sinon c'est pas drôle, une dizaine de personnes quand même en un an. Or, à cette époque, en Argentine, le professeur Cesare Lombroso, qui s'appuyait sur des théories dites de la dégénérescence et des théories racialistes, affirmait que la criminalité était héréditaire et donc que les criminels avaient un physique type et qu'ils étaient très laids. Et l'Ange Noir a donc défrayé d'autant plus la chronique qu'il était jeune, très beau et qu'il venait d'une famille aimante et plutôt aisée. L'Ange raconte donc l'histoire vraie de ce criminel hors norme, sans pour autant tenter d'en faire la psychanalyse. L'Ange est un garçon encore adolescent qui n'a aucune notion de la mort et qui a l'impression d'être, comme pas mal de psychopathes, un envoyé de Dieu.
Andar por donde se te cante, como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento.
Alors le personnage construit ici est donc volontairement haut en couleur, excentrique, très rock'n'roll, extraverti, interprété par le comédien Lorenzo Ferro, qui est assez incroyable et qui fait que l'on croit à ce personnage totalement imprévisible. D'ailleurs pour moi, il aurait quand même mérité, je pense, d'avoir le prix d'interprétation à Cannes. Alors dans son itinéraire meurtrier, l'Ange va se lier d'amitié avec un autre jeune homme, à l'opposé de lui, venant d'une famille violente et prolétaire, et le duo qu'ils forment tous les deux ne va pas tarder à se doubler d'une forte ambiguïté amoureuse et sexuelle. Car davantage que la mort ou la violence, c'est le rapport du personnage au sexe qui intéresse le cinéaste, volontairement mis en parallèle, Eros et Thanatos sont au cœur du film, comme indissociable de la folie et de la séduction du personnage. La force du film réside donc vraiment dans le traitement du personnage central, dont les moindres faits et gestes sont surlignés par une BO 70s absolument jouissive. Et la mise en scène, sans être non plus putassière, s'autorise à être complètement flamboyante. Et donc pour moi, c'est un vrai plaisir de cinéma, j'ai trouvé. Manu, peut-être que tu en penses quelque chose ?
Je mettrais un petit bémol. Je le trouve très très séduisant, mais il a aussi les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'il est séduisant, mais il y a un côté aussi, en présentant un personnage comme ça, visage d'ange, le film a un côté superficiel aussi.
Un peu vain.
Un peu gratuit comme ça. Mmh. Assez virtuose, mais assez gratuit en même temps.
Eh bien, merci. C'était l'avis très rapide, mais tu vas être plus long sur le film Asako qui était en compétition à Cannes l'an passé.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors le film Asako 1 et 2, c'est le même titre en fait, s'ouvre par une scène idyllique, tout droit sortie d'un rêve. Une jeune fille, Asako, remarque un jeune homme, elle tombe sous son charme dès l'instant où elle a croisé son regard. Le coup de foudre est immédiat, elle le suit dans la rue, puis remarquant être filé, le jeune homme, Baku de son nom, se retourne et se dirige vers Asako et puis l'embrasse avec fougue. Alors dans un très beau ralenti en plus, plaçant le film sous un lyrisme flirtant avec une imagerie très naïve. Alors, dans le plan suivant, on retrouve donc nos deux amoureux dans un restaurant avec des amis, dont l'un ne peut s'empêcher de s'exprimer sur cette histoire racontée en disant « dans la vie, ça ne se passe jamais comme ça ». Alors, cette introduction très subtile sous ces faux airs nunuches définit les contours du projet Asako 1 et 2. Derrière sa bluette sentimentale se cache un beau film mélancolique, variation nippone et presque romérienne de Vertigo d'Hitchcock. Alors, Asako et Baru s'aiment, mais ce dernier disparaît un jour. Alors, 2 ans plus tard, Asako croise un homme ressemblant comme 2 gouttes d'eau à son amant disparu. Elle tente de l'éviter et en même temps ne peut s'empêcher de le voir. Elle finit par succomber à l'amour de Ryue, qui lui ne comprend pas très bien la réaction ambivalente de la jeune femme. Alors le dispositif hitchcockien insère surtout une réflexion sur le désir amoureux, sur l'image parfois faussée qu'on a d'un être aimé et l'amour qui nous échappe et que l'on a à portée de main. Si le discours n'a rien de particulièrement original, le film est empreint d'une délicatesse cotonneuse, comme si on était embarqué dans un rêve éveillé où l'on ne saurait plus très bien ce qui est réel ou non. La réussite du film de Hamaguchi, l'auteur de Sense, tient à cette distance, teintée d'ironie, cette manière d'agiter des sentiments forts, des passions de manière presque atone, comme si de rien n'était. Le film baigne dans une atmosphère un peu évanescente où l'émotion se dispute à un humour constant et toujours très bien amené, évitant à chaque fois au film de sombrer dans la mièvrerie. Mais le plus intelligent dans cette peinture fine et faussement tendre des sentiments reste la mise en scène qui adopte un style en fait très proche du manga. C'est un film télé à la base, produit par HBO. Asako est donc un téléfilm filmé dans un format carré, alignant essentiellement des plans moyens fixes. Alors cette sobriété un peu austère ne renvoie pas forcément à une esthétique télé, mais aussi et surtout au manga, en manga animé ou même en format BD. Si l'on fait attention, les personnages sont étonnamment lisses, transparents. Ils sont tous beaux, jeunes, interchangeables d'ailleurs, ce qui accentue le trouble avec cette histoire de sosie. Ils évoluent aussi dans un monde de surface, sans relief, qui se traduit à l'écran par une réalisation réfutant toute profondeur de champ. Alors plus que les purs, le réalisateur vise, je pense, une forme d'abstraction, cherchant une émotion inédite sans passer par la psychologie des personnages. Ceux-ci sont d'ailleurs souvent figés. Un peu comme dans un dessin animé. Alors cette forme d'économie du jeu des comédiens renvoie au graphisme de certains grands plasticiens comme Satoshi Kon, grand animateur décédé. La beauté presque absente de l'héroïne avec ses grands yeux d'héroïne de manga, elle envoûte dès sa première apparition. Alors dans son deuxième acte, Asako 1 fait réapparaître donc Baru, devenu comme par hasard une icône de la mode. Le propos s'alourdit un peu, annonçant un virage cruel avant de revenir sur ses fins. Pour une fin en demi-teinte, c'est un peu dommage, le film ne se termine pas comme il a commencé, mais c'est un film assez remarquable et qui devient de plus en plus intéressant plus les jours passent.
Ah oui, c'est un film qui reste...
Oui, il paraît très superficiel et puis il ne l'est pas du tout.
Merci, on en a terminé avec Cannes, mais pas tout à fait, en tout cas avec 2018, puisqu'on va parler des films qui ont été en haut du box-office français, et puis des films au contraire qui ont un peu marqué le pas.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
L'année 2018 a marqué un recul des entrées dans les salles de cinéma avec un peu plus de 196 millions de billets d'entrée vendus. Donc ça veut dire à peu près que chaque Français va 3 fois par an au cinéma, c'est à peu près ça. Et ça fait quand même moins 6% par rapport à l'année précédente. Alors on a quitté 2018 avec des films qui ont bien marché, et cela sans surprise, et d'autres qui n'ont pas entraîné les spectateurs dans les salles. Mais 38 films ont quand même dépassé le millions d'entrées. Et il est surprenant d'ailleurs de s'apercevoir que Solo, Star Wars Story, hein, fait moins bien que Belle et Sébastien. Et que même si on additionne les spectateurs des deux films de Steven Spielberg sortis en 2018, soit Ready Player One et Pentagon Paper, eh bien ils seront moins nombreux que les spectateurs des 10 premiers films de l'an passé. Alors, ironie, le dixième de ces films est Jurassic World, Fallen Kingdom, donc la franchise initiée par Steven Spielberg. On va... Alors, jouer une blind test quand même, vous allez devoir deviner les cinq films donc, qui ont remporté eh bien, le plus de spectateurs dans les salles. On commence avec le cinquième, c'est facile.
Je t'ai demandé quelque chose ?
Je voulais juste vous aider.
Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez, là, que c'est comme ça que vous allez gagner ?
On veut juste participer.
Pardon, j'ai pas entendu.
On veut juste participer.
Participer, ah fils de pute !
Ah, ça va pas !
Ça va pas quoi ?
Rien, rien.
Maintenant, on arrête de rigoler. Vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
J'ai pas mes habits pour courir, là.
Bon, ben, elle est là avec toi.
On l'a trouvé tout à fait en même temps, je le reconnais. Mais sauf que Manu ne l'a même pas vu, donc je lui donne le point. C'était Le Grand Bain.
Film de Gilles Lelouch. 4 200 000 spectateurs et le film est encore en salle. Gros succès pour cette comédie française. Le quatrième, maintenant.
La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison.
Gardien de la pierre, est-ce que ce dindon verbeux parle en ton nom ?
Certainement pas, je m'exprime par moi-même. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette cité et sur cette planète.
Ça veut dire dégage, Voldemort !
Cette créature m'épuise. Apporte-moi la pierre.
Vous voulez y aller, Banner ?
Non, pas vraiment, mais depuis quand est-ce que je fais ce que je veux ?
Ça, c'est vrai.
Ok, pousse !
Ça fait un bail.
Les Avengers ?
Oui, c'est trouvé, Manu. Avengers Infinity War, bon, qui était un succès, certes, je crois, mitigé. Et donc, 5 millions, quand même, 141 000 spectateurs français se sont déplacés pour voir ce film. Allez, cette fois-ci, c'est un film français. Et là aussi, normalement, c'est facile à trouver.
Mais je me suis tout débattu pour mes gosses, pour qu'ils s'en sortent mieux que moi. Un peu devenir riche, mais un dos jamais oublié d'où que j'ai qu'un vin. Et qui t'a oublié qui que t'es tôt ?
Bon, eh bien, c'était facile.
La petite famille.
Eh oui, film de Danny Boone, 5 600 000 spectateurs à peu près, et 11 semaines dans les salles. Allez, encore eh bien, un film qui nous vient de Ch'tenor.
Bon, en tout cas, t'as intérêt à gagner la prochaine Coupe du Monde, parce que c'est ça que les Français attendent. Parce que si tu gagnes, tout le monde a la pêche. Et si tout le monde a la pêche, tout le monde a la patate. Et si t'as la patate, t'as la frite. Si t'as la frite, t'as le ketchup. Si t'as le ketchup, t'as la mayo. Si t'as la mayo et le ketchup, t'as la sauce américaine. Si t'as la sauce américaine, t'es un cow-boy. Si t'es un cow-boy, t'as des vaches. Si t'as des vaches, t'as du lait. Si t'as du lait, t'as du fromage. Et c'est qui le pays du fromage ? C'est la France. C'est comme ça qu'on va redresser le pays, c'est pas compliqué.
C'est trouvé, évidemment.
C'est les Tuches 3, hein, que j'ai malheureusement vu.
Donc 5 600 000 spectateurs. On remarque bien d'ailleurs qu'entre les deux films, hein, rien qu'avec cet extrait, c'est pas du tout ce sont deux comédies, mais absolument pas le même style. Voilà, maintenant le grand vainqueur du box-office 2018, c'est celui-ci.
J'ai une question à vous poser. Quelle est la principale cause de votre entrée en disgrâce ?
L'ignorance ?
La perception. Regardez, aujourd'hui, par exemple, avec le démolisseur, situation compliquée, vous avez dû prendre des décisions difficiles.
Oh, m'en parlez pas.
Je ne peux pas en parler. Parce que je n'ai rien pu voir. Personne n'a rien pu voir. Lorsque vous combattez les méchants, comme aujourd'hui, personne ne voit les combats, ni ce qui les a provoqués. On ne voit que ce que les politiciens pointent du doigt. Les gens associent destruction et vous. Donc, si nous voulons changer la perception que les gens ont des super-héros, il faut que vous partagiez votre perception avec le monde entier.
Et comment fait-on cela ?
Avec des caméras.
Ça a été trouvé, Manu.
Eh ben c'est Les Indestructibles 2.
Ouais. Tu l'avais chroniqué, je crois, d'ailleurs, ici.
Non, il est sorti en plein été.
Ah. Donc 5 800 000 spectateurs, et donc c'est un film d'animation qui remporte la palme. On va maintenant parler eh bien, de ceux qui n'ont pas du tout marché. Il y a Millennium, Ce qui ne me tue pas, qui n'a pas rapporté assez d'argent à ses producteurs. Les Frères Sisters de Jacques Audiard, là, c'est... un véritable four, hein, parce que les recettes mondiales sont de 9 millions pour un coût de production de 38 millions. Il n'a absolument pas marché, même en France, hein, alors qu'il avait de très bonnes critiques. Ensuite, Robin des Bois, là aussi, ça a été une catastrophe. Coût de production 100 millions, recettes mondiales 65 millions. Un raccourci dans le temps, là, ce sont les Disney. Alors, bon, c'est relativement à Disney, il n'a pas fonctionné, il a quand même rapporté un peu d'argent, mais pas suffisamment, puisque les coûts de production sont de 100 millions et les recettes mondiales de 132 millions seulement, quand on compare à Star Wars qui en rapporte 1 milliard, évidemment. On en est très loin, et puis Casse-Noisette et les 4 royaumes, alors là, ça n'a pas vraiment fonctionné non plus, 138 millions de recettes mondiales pour un coût de production de 120 millions. Et puis si on termine cette fois-ci avec les Français, le top français, mais vraiment des films qui ont dépassé les 300 copies, donc qui ont quand même du marketing et puis bien une présence sur le territoire, et bien Les Aventures de Spirou et Fantasio, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que ça n'a ramené que 237 000 spectateurs, bon, ce qui est quand même pas mal, mais bon, avec plus de 300 copies, on espérait mieux. Budapest, avec Manu Payet et Jonathan Cohen, dont on parlait tout à l'heure, et bien 200 000 entrées pour 327 copies. Abdel et la Comtesse, ça n'a pas fonctionné, 172 000 spectateurs seulement pour 317 salles. L'extraordinaire Voyage du Fakir, j'avais complètement oublié ce film, avec Gérard Jugnot et Bérénice Bejo, 359 copies.
Oui, que j'avais chroniqué.
Et 149 000 spectateurs. La comédie sociale Les Affamés n'a pas fonctionné non plus, malgré la présence de Louane, puisqu'il y a seulement 112 000 entrées pour 309 salles. Et puis le plus gros four, en revanche, c'est Christophe, avec Michael Youn, 375 salles qui l'ont proposé, mais seulement 103 000 spectateurs. Et là, bon, je pense qu'il n'est pas resté de nombreuses semaines. Ainsi s'achève Cinérama.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp !
La semaine prochaine, Marine, une interview.
Oui, une interview de Louis-Julien Lepetit pour le film Les Invisibles qui nous a beaucoup plu, avec également Audrey Lamy. D'ici là, ne faites pas les soldes, allez au cinéma. À la semaine prochaine.